Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, ouverture ce lundi de la 60e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Quatre membres du gouvernement congolais sont déjà sur place. Mais quels sont les enjeux pour la RDC qui a été élue en octobre 2024 membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Réponse avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapou, qui est sur place à Genève. Nous parlerons aussi de ce SOS du coordonnateur provincial de la protection civile du Maniema. 9 écoles et 4 églises détruites lors de la pluie diluvienne du 26 août dernier. Il sollicite une aide d'urgence importante en cette période de rentrée scolaire. Un invité dans ce journal, il s'agit du secrétaire général académique de l'établissement Leadership Academia University, Dédé Aliango, va nous parler de la conférence sur la non-violence comme nouvelle approche pouvant permettre au pays de retrouver une paix définitive organisée ici à Kinshasa. À suivre donc vers la fin de ce journal. Encore une fois, bonjour. Les regards sont tournés vers Genève en Suisse où s'ouvre ce lundi la 60e session du Conseil des droits de l'homme. Mais plusieurs questions taraudent dans nos esprits. Quels sont les enjeux pour la RDC qui a été élue en octobre 2024 membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Que peut-elle attendre de cette session après que les Nations Unies ainsi que plusieurs ONG de droits de l'homme tels que Human Rights Watch et Amnesty International ont publié récemment des rapports mettant en cause la rébellion de l'AFC M23, certains militaires FARDC et les combattants Wazalendo? En tout cas, ils sont tous accusés d'avoir commis de graves violations de droits de l'homme dans l'est de la RDC. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme estime que cette session doit donner des recommandations fortes pour le respect par tous du droit international humanitaire. On écoute Paul Sapou depuis Genève. Il est au micro d'Alain Hirung, l'envoyé spécial de Radio Okapi sur place en Suisse.
De cette 60e session du Conseil des droits de l'homme, la CNDH attend donc des recommandations fortes et claires, notamment un appel sans équivoque au respect du droit international humanitaire par toutes les parties au conflit, en particulier la protection des populations civiles. Nous attendons également de cette session le soutien à la lutte contre l'impunité, afin que les responsables des violations graves des droits humains, d'où qu'ils viennent, puissent répondre de leurs actes devant la justice. Nous attendons également un renforcement de l'assistance technique et humanitaire en faveur des victimes, en particulier les déplacés internes, les femmes et les enfants. Enfin, nous attendons de cette session une pression internationale accrue pour que cessent les soutiens extérieurs aux groupes armés qui alimentent la spirale de la violence.
Je l'ai dit en ouverture de ce journal, quatre membres du gouvernement congolais sont à Genève pour représenter la République démocratique du Congo à cette 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La délégation est composée de Guillaume Ngefa, ministre d'État en charge de la justice, Samuel Mbemba, ministre des droits humains, Patrick Muyaya, ministre de la communication et médias, et Noëlla Ayegana-Gato, vice-ministre des Affaires étrangères. Nous y reviendrons. Autre lieu, autre rendez-vous, c'est celui des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale au 7e sommet extraordinaire tenu à Sipopo en Guinée équatoriale, ici en Afrique. Tous ces dirigeants africains appellent à la mise en œuvre immédiate de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, considérée comme un socle essentiel pour la paix dans la région. Lors de ce sommet, un rapport détaillé sur la crise dramatique dans l'est de la RDC a été présenté, soulignant la persistance de l'insécurité dans les territoires contrôlés par des groupes armés soutenus de l'extérieur. La conférence a également salué les efforts conjoints des processus de Lomé, Doha et Washington en faveur de la restauration de la stabilité dans la zone. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à ce sommet qui s'est clôturé hier dimanche. Triste Triste réalité à Kindu, 9 écoles et 4 écoles ont été détruites et 4 églises ont été détruites lors de la dernière pluie diluvienne accompagnée d'un vent violent du 26 août dernier qui a secoué cette ville du Maniema. L'alerte est lancée par la coordination provinciale de la protection civile. Il fait savoir qu'une aide d'urgence en termes de réponse rapide s'avère importante en cette période de rentrée scolaire car ces écoles endommagées peine à prendre en charge les élèves. Le coordonnateur provincial de la protection civile, Michel Walangabali, est au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes à l'Institut Nyota, une ancienne école de Kindu créée depuis 1967. Elle a été durement touchée par les dégâts de pluie. Ici, certaines salles de classe sont inutilisables. Les élèves sont confinés dans le reste des salles encore en bon état pour pouvoir suivre les cours. Le préfet des études, Ramazani Mwendamavu, déplore les conditions dans lesquelles étudient ces élèves.
L'Institut Nyota est autorisé à faire fonctionner 24 classes. Et parmi les 24 classes, Nyota a ses propres salles, 10 salles. Et nous avons 5 salles d'emprunt de l'université Simo Kimbangu. Avec cette catastrophe, la situation devient de plus en plus compliquée. J'ai de la peine même à détailler ce qui nous arrive.
Attristés par la situation de leur école, les élèves demandent de l'aide.
Vraiment, depuis cette catastrophe s'est manifestée, nous étudions dans de mauvaises conditions. Nous sommes entassés dans des salles de classe. Cela ne nous permet pas de bien étudier.
Des fois, on nous emmène à l'église, mais cela n'est pas bon pour nous. Quand il y a culte, on commence à étudier en retard. Que les autorités nous aident.
Signalons que parmi les édifices touchés par cette catastrophe naturelle, il y a 9 écoles et 4 églises. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Vous avez bien noté ce reportage détaillé signé Florence Kizalunga. Un autre appel est celui lancé par l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale ici à Kinshasa. Ce syndicat demande au gouvernement de prendre en charge les syndicalistes provinciaux en qualité de missionnaires dans le respect des dispositions prises depuis août 2024 à Biboua. Faute de quoi, l'intersyndicale se réserve le droit de refuser de participer à la poursuite des négociations avec le gouvernement, a déclaré son président et porte-parole. Il s'est exprimé au sortir de l'Assemblée générale tenue hier dimanche pour évaluer le préavis accordé au gouvernement sur la situation des enseignants. Écoutez à ce sujet, Matondo Nzuzi Godefroy au micro de Sarah Sumbela.
Tous les enseignants de la République sont impatiemment à l'attente de la suite que le gouvernement de la République réservera à leurs revendications contenues dans la déclaration du 26 août 2025 et c'est conformément aux recommandations du président de la République, chef de l'État lors des récents conseils des ministres. L'intersyndical recommande ce qui suit. A. Au gouvernement de la République d'intégrer et de prendre en charge par le trésor public les syndicalistes provinciaux en qualité de missionnaires dans le respect des dispositions initialement prises à ce sujet depuis le mois d'août 2024 à Biboua. De toiletter les termes de référence de la dite mission pour raison de conformité à son objet. De revenir à la table du dialogue avec l'intersyndicale pour évaluer le niveau d'exécution des engagements pris lors des travaux des commissions paritaires tenues à Biboua et Ambouéla. Dans les cas contraires, l'intersyndicale se réserve le droit de refuser sa participation à cette mission.
Les médecins membres du syndicat national des médecins Kasaï Oriental viennent eux aussi de lancer un ultimatum au gouvernement. Le SINAMED donne ainsi 48 heures à l'exécutif national en vue d'améliorer la situation de la paie des médecins. Bref, ils exigent la paie en temps réel des primes ainsi que les salaires. Ils l'ont fait savoir au cours d'une déclaration faite ce week-end à Mbujimayi. Docteur Mathieu Tiabouila, c'est ça, secrétaire exécutif provincial du SINAMED, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Nous avons un problème majeur, c'est le paiement avec retard de 2 ou 3 semaines. Le tout ensemble, les salaires et primes. Le gouvernement nous paye avec un retard de 2-3 semaines. Les médecins sont des parents, ils sont confrontés au problème de la rentrée scolaire. Ils doivent préparer la rentrée de leurs enfants. S'ils ne sont pas payés, comment est-ce qu'ils vont faire rentrer leurs enfants à l'école? Par exemple, le mois de juillet, on nous a payé avec 3 semaines de retard. C'est anormal. Hier ou avant-hier, 5 à 6 provinces ont été payées. Nous nous demandons pourquoi le Kassai oriental est toujours payé avec un grand retard. Nous disons non, nous ne voulons pas que cette manière de traiter les médecins continue ainsi. Que le gouvernement change de méthode par rapport au paiement des médecins. Nous sommes marginalisés, on nous paye avec un retard de 3 semaines. C'est anormal, nous disons non à ce mode de traitement.
Nous restons au Kassai oriental pour signaler la reprise depuis hier dimanche du trafic aérien à l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi, cela après une semaine de suspension des activités aéroportuaires. Quelques avions atterrissent depuis ce dimanche jusque ce lundi dans cet aéroport. Selon le commandant de la régie de voies aériennes RVA Kassai oriental, Romain Chinyama, cette suspension avait pour objectif de faire accélérer les travaux de réhabilitation et de modernisation de la piste d'atterrissage et garantir la sécurité ainsi que l'efficacité du trafic aérien. Et puis cette première dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire dans la province de la Tchopo, une femme vient d'être nommée rectrice de l'Université Mariste du Congo, un établissement d'enseignement universitaire d'obédience catholique. Son installation officielle est intervenue samedi dernier. La professeure Liliane Bibiche Saloumou, c'est d'elle qu'il s'agit, est la quatrième personnalité à occuper ce poste au sein de l'UMC. Qui est la nouvelle rectrice de cet établissement? Jacques Mokonkole nous brosse son portrait.
Liliane Bibiche Saloumou est professeure à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'université de Kisangani. Elle a dirigé le centre de recherche politique et sociale d'Afrique noire de la même faculté. Elle est membre de la dynamique des universitaires congolais, un collectif engagé pour la promotion des droits des femmes dans l'enseignement supérieur et universitaire. En février 2023, elle a dénoncé la sous-représentation des femmes dans les comités de gestion des établissements de l'Essud dans la Tchopo. En 2021, la division provinciale du genre l'a plébiscité comme révélation scientifique féminine en guise de reconnaissance de sa contribution à la recherche et à l'éducation. Au-delà de son parcours académique, elle est active dans la société civile locale. Elle a participé à des campagnes de sensibilisation sur les crimes environnementaux. Actrice des droits humains, elle participe à des campagnes de sensibilisation de la population sur le rapport mapping. Elle dénonce également les violences sexuelles subies par les femmes congolaises. Actuellement, la professeure Liliane Bibiche est chargée des programmes au sein du GTDE, groupe de travail sur la décentralisation et les élections, une ONG d'éducation civique et politique. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Autre nouvelle, vous le savez, obtenir un passeport est devenu un véritable parcours du combattant en République démocratique du Congo. Pour preuve, des milliers de Congolais, dont de jeunes, de nombreux étudiants, voient leur projet de vie gelé à cause de la lenteur administrative. Dans ce premier numéro de cette série de reportages que vous propose Radio Capi, notre reporter est allé à la rencontre de ceux qui attendent depuis des mois ce précieux sésame. Michel Kifindangoy.
L'attente est longue et l'espoir s'amenuise devant le ministère des Affaires étrangères. Pour des dizaines de familles de Congolais, le passeport est un sésame qui se fait rare. Pour des étudiants comme Jean-Pierre, c'est même un cauchemar.
J'ai payé mon passeport il y a plus de 6 mois passés. Je devais partir pour mes études à l'étranger. Ma bourse, mon inscription, tout est en jeu. On me dit que c'est un problème d'impression. Je trouve que c'est inadmissible.
La frustration est palpable. Il y a quelques jours, une cinquantaine de personnes ont manifesté, lassées de cette situation. Derrière ce retard se cache un problème majeur, la transition entre l'ancien et le nouveau producteur de passeport.
J'avais besoin du passeport de mon fils pour l'amener se faire soigner en Europe. Je dis annuler le voyage, c'est la santé de mon enfant qui est en jeu. C'est vraiment une grande déception.
Ces témoignages ne sont que la partie visible du problème beaucoup plus profond. Dans notre prochain reportage, nous vous révélerons pourquoi plus de 120 000 passeports sont bloqués dans une base de données, rendant leur situation encore plus complexe.
Actualité internationale.
L'armée israélienne a bombardé une nouvelle tour d'habitation dans la ville de Gaza après l'annonce par le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'une extension des opérations militaires dans cette agglomération dont Israël a affirmé vouloir prendre le contrôle. Des témoins ont indiqué que le bâtiment a été détruit dans la frappe qui a fait un mort selon la défense civile de la bande de Gaza.
L'invité.
Une conférence sur la non-violence comme nouvelle approche pouvant permettre au pays de retrouver une paix définitive vient d'être organisée à Kinshasa par Leadership Academia University en partenariat avec The World House. Cette activité scientifique qui s'est déroulée sous le thème « La métalogique de la non-violence » a connu comme invité de Marc Martin Luther King III, fils du révolutionnaire afro-américain portant le même nom, auteur du célèbre discours « I have a dream ». Scientifiques, acteurs de la société civile et étudiants ont pris part au Centre culturel des pays d'Afrique centrale pour apporter leur contribution à cette nouvelle approche. Ils y ont donc pris part. Dédé Aliango, secrétaire général académique de Leadership Academia University, nous en parle dans cet entretien accordé à Blaise Chindani Kambala.
Madame Dédé Aliango, bonjour. Votre institution Leadership Academia University vient d'organiser une conférence sur la non-violence, une première au pays. Quelles sont vos impressions quant à ce?
Alors, c'est déjà quelque chose d'historique parce que pour la première fois, le fils de Martin Luther King Jr., donc Martin Luther King III, est arrivé en RDC et il est venu nous parler sur la maison mondiale. La RDC comme une maison, comme une famille, et on doit regarder dans cette maison-là où il y a des fissures, réparer ces fissures-là. Mais pour réparer les fissures, nous avons besoin de valeurs qui doivent être de soubassement de notre action, de notre manière d'agir. Mais aussi, nous avons le choix. Il nous faut prendre des décisions. Et ces décisions doivent être courageuses parce que ce sont des décisions qui créent la rupture avec notre existence. L'existence actuelle n'est plus tenable. Et donc, il faut prendre des décisions qui créent cette rupture-là qui nous amène vers un autre paradigme. Donc, je suis contente parce que j'ai vu énormément de Congolais remplir la salle pour venir suivre cela.
En tant que scientifique, quelles sont vos attentes à l'issue de cette conférence?
Alors, à l'issue de cette conférence, en tant que scientifique, d'abord, dans le cadre des objectifs de la conférence, une première chose, c'était de créer un mouvement des hommes et de femmes non-violents pour impulser cette approche-là de la non-violence étant une approche qui nous amène à faire ce qui doit se faire, ce qui doit être. Vous voyez? Deuxièmement, en tant que scientifique, nous allons vraiment commencer à mener des recherches. Parce que les valeurs que nous allons proposer, cette approche-là doit être basée sur un contexte précis. Et on doit comprendre les contextes congolais avant de proposer des valeurs et des mécanismes de changement. Et donc, la recherche va nous permettre de comprendre les facteurs culturels, les facteurs économiques, les facteurs structurels qui limitent, en fait, notre bien-être, qui limitent nos objectifs et qu'on n'atteigne pas nos objectifs. À partir de ces moments-là, on peut maintenant commencer à poser des actes.
Vous êtes une institution privée. Est-ce que vous disposez des moyens qu'il faut pour mener une telle recherche en RDC?
En tout cas, si tu veux, tu peux. Nous partons de cela. Personne ne pensait qu'on pouvait faire venir Martin Luther King. Mais avec l'aide de Dieu et la main d'association de beaucoup de Congolais, voilà qu'il est là et la conférence est tenue. Nous partons avec cet espoir-là que ce possible tant qu'on veut, tant qu'on travaille, tant qu'on est ensemble.
La situation actuelle du pays est telle que les tireurs de ficelles, notamment en ce qui concerne la guerre dans l'est du pays, sont des étrangers. Comment allez-vous procéder pour les atteindre?
Notre message actuel, c'est au peuple congolais. S'il y a des tireurs de ficelles, ils ne peuvent pas agir sans nous. Et donc, notre message, c'est vers les Congolais. C'est nous d'abord qui devons penser à notre pays. Et donc, c'est d'abord à l'homme congolais qu'on doit parler. Et donc, on commence par là. Et cette approche de la non-violence, vous savez que, comme le disait Mr. King, il y a moyen de résoudre nos problèmes sans se battre. Et ce sont ces approches-là que nous allons commencer à propager en RDC.
Avez-vous un message particulier à lancer à l'endroit de la population congolaise à cette occasion?
Voilà. Pour moi, chers compatriotes, le Congo, c'est notre pays. Et nous sommes un pays béni parce que nous avons énormément de potentiel en termes de ressources, en termes de personnes, en termes de culture. Il est temps que nous fixions maintenant nos regards vers le changement. Et ces changements-là a besoin de toi et de moi. Mais pour ça, il nous faut un choix. On reste sur place les statu quo ou alors on évolue. Et si on doit évoluer, peu importe les difficultés que nous allons rencontrer, ensemble nous allons les vaincre. Donc lèvons-nous, Congolais, debout Congolais, et avançons.
Madame Dédé Aliango, secrétaire générale académique des Leadership Academia University, je vous dis merci beaucoup.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Suzanne Zobo, à Élisée Chikota et à Dieudonné Nyangassa. Excellente journée à toutes et à tous.